Delphine Alès, bonjour.
Bonjour.
Dans La part des dieux, religion et relations internationales, vous déconstruisez des idées reçues et nous allons les développer les unes après les autres autour du poids de la religion dans les relations internationales. Alors, certains attestent de l'idée d'un retour de la religion dans ces relations avec la fin de la guerre froide, en s'appuyant par exemple sur le discours de Barack Obama au Caire en 2009 à destination du monde musulman. Pourtant, dans votre livre, vous nous expliquez que le religieux n'a en fait jamais quitté la scène internationale et que on ne peut pas parler de retour. Vous nous expliquez pourquoi?
Oui, effectivement, on ne peut pas dire que le religieux ait jamais quitté la scène internationale en tant que facteur social, en tant que facteur de mobilisation, d'engagement des acteurs individuels et même en tant qu'objet de politique de la part des acteurs étatiques. Mais pourtant, la différence, c'est qu'il n'était pas, contrairement à aujourd'hui, un paramètre d'analyse. On ne lui prêtait pas une autonomie sur la scène internationale, on ne lui prêtait pas un rôle explicatif des humeurs du monde et des conflits en particulier, comme c'est fréquemment le cas aujourd'hui.
Donc il était un peu comme occulté. Et donc vous expliquez dans votre livre qu'il faut remonter à 1648, quand sont signés les traités de Westphalie qui ont mis fin en Europe aux guerres de religion et qui sont considérés comme les traités qui ont exclu le religieux des relations internationales. Dites-nous, ce qu'ont été ces traités de Westphalie et pourquoi la lecture qu'on a pu en faire était erronée?
Alors, les traités de Westphalie, qui ont été signés en 1648 à Osnabrück et à Münster, ont effectivement signé la fin des guerres de religion en Europe. Et on a tendance, en relations internationales, à considérer que ces traités ont instauré l'ordre international contemporain en institutionnalisant la souveraineté, le principe de souveraineté interne et externe, c'est-à-dire l'idée que les États n'ont pas à se mêler des affaires intérieures des autres États. Et l'idée que les acteurs étatiques sont égaux dans leur souveraineté. Alors, on fait souvent une équivalence un peu rapide entre la fin des guerres de religion, l'établissement de ce principe de souveraineté par ces traités et l'exclusion du religieux des relations internationales. Pourtant, c'est faux, pour trois raisons principales. D'abord, parce que ces traités de Westphalie n'ont pas mis fin à la présence du religieux dans les affaires internationales, ils l'ont essentiellement régulé. Ils ont régulé les rapports entre religieux et politiques, par exemple en contenant des dispositions sur le respect des minorités religieuses. Ensuite, ces traités, et c'est d'ailleurs l'un de leurs apports principaux, ils ont consacré la supériorité du politique sur le religieux, mais pas la fin des usages politiques du religieux. Donc on pourrait dire finalement que ces traités ont consacré une forme d'enrégimentement du religieux par le politique. Ils ont rendu possible son instrumentalisation. Mais ils n'ont évidemment pas aboli la présence du facteur religieux sur les scènes politiques. Et puis, troisième élément, peut-être le plus important, ces traités ne concernent que la trajectoire des États d'Europe occidentale. On est en 1648, le reste du monde n'est pas concerné par ces traités de Westphalie, alors même que d'autres régions ont connu des trajectoires très différentes, donc un rôle très différent du religieux, notamment dans la construction nationale.
Oui, justement, les États européens se sont modernisés en s'émancipant de la religion, de la relation au Vatican. Or, vous montrez bien dans votre livre que les mouvements d'indépendance post-coloniale, dans ces mouvements d'indépendance, il y a eu l'investissement d'acteurs religieux. Vous citez notamment, puisque c'est l'un de votre terrain d'enquête, l'Indonésie, où effectivement l'émancipation s'est faite avec l'investissement d'acteurs religieux. Donc l'indépendance ne s'est pas faite contre la religion dans ces pays.
Effectivement, c'est toute la différence entre des trajectoires comme celle de l'Indonésie, que j'utilise comme prisme, mais on pourrait parler de l'Égypte, on pourrait parler de l'Inde, on pourrait parler du Pakistan, des États dans lesquels des organisations ou des acteurs à fondement religieux, mais la plupart du temps pas que, ont joué un rôle central dans la construction d'une identité nationale et la mobilisation anticoloniale. Et donc, contrairement à ce qui avait été le cas en Europe au moment de cette fameuse époque westphalienne, où les États se sont construits dans l'émancipation à l'égard des prétentions à une autorité surplombante, notamment du pape à Rome, eh bien, ces États se sont construits avec des acteurs religieux, parmi d'autres. Ils n'étaient pas les seuls, mais ils ont donc revendiqué une place à la table des affaires politiques à l'issue des indépendances.
Et ce que l'on voit dans votre livre, c'est que finalement, maintenant, on assiste en quelque sorte à un effet de balancier, c'est-à-dire qu'avant, certains disaient que le religieux avait disparu, et alors qu'il n'était qu'occulté, et que finalement, maintenant, le religieux, on lui accorderait finalement parfois trop de place dans les relations internationales.
C'est effectivement le cas. C'est ce que je disais au tout début de notre entretien, en disant que le religieux a tendance à devenir un prisme aujourd'hui d'analyse des relations internationales. C'est notamment un des effets du succès de la thèse du choc des civilisations d'Huntington dans les années 90, qui a remplacé en tant que grille de lecture la grille fondée sur les facteurs de puissance et la grille stratégique qui dominait pendant la guerre froide. Le religieux, qui est central dans cette thèse du choc des civilisations, est devenu une grille de lecture qui est très souvent utilisée, notamment quand on cherche à expliquer des tensions, des conflits internes lointains. Plus les conflits sont éloignés et complexes, et plus on a tendance d'ailleurs à les interpréter en termes religieux. Et cette grille de lecture conditionne aussi les remèdes, c'est-à-dire les solutions qui sont proposées face à ces tensions. On a tendance à aborder les problématiques de résolution de conflits en termes de dialogue interreligieux. Aujourd'hui, c'est ce que font beaucoup d'organisations, notamment des Nations Unies ou d'organisations non gouvernementales. Donc, lorsqu'on a des conflits analysés en termes interreligieux, eh bien, on propose du dialogue interreligieux pour les résoudre, ce qui suscite une difficulté parce que lorsque les conflits sont analysés uniquement à travers ce prisme, qui est souvent présent mais qui n'est jamais unique, eh bien, les acteurs ont tendance à se l'approprier, à considérer que c'est celui qui va leur donner une visibilité, leur permettre de trouver des ressorts, éventuellement des soutiens extérieurs. Et donc, progressivement, ce prisme devient effectivement prédominant sur le terrain. Donc, plus on a tendance à analyser les phénomènes internationaux en termes interreligieux, plus ce prisme, effectivement, prend une place croissante sur le terrain et donc ça provoque une difficulté puisque les conflits dans lesquels ce facteur joue un rôle important sont beaucoup plus difficiles à résoudre parce que le religieux ne se négocie pas, contrairement aux problématiques notamment territoriales ou économiques.
Quand le facteur religieux est impliqué, c'est ce que vous expliquez, hein, les conflits ont tendance à durer plus longtemps.
Effectivement, c'est le cas. Alors, le religieux joue un rôle qui peut être aggravateur dans le cadre des conflits, puisqu'il fait référence au trait identitaire des acteurs impliqués, puisqu'il permet d'aller solliciter des soutiens extérieurs de par sa dimension transnationale. Donc, il est très souvent présent dans les conflits. Il n'est jamais un élément déclencheur unique, mais il contribue à leur implantation, à leur prolongation et au fait qu'il est difficile d'en sortir parce qu'il n'est pas négociable.
Merci beaucoup, Delphine Alès.
Merci à vous.